Mais d'abord, on s'en va en Israël parler avec le porte-parole de Tsahal, à qui on avait parlé à quelques reprises durant le conflit contre le Hamas à Gaza, Olivier Rafovitch, qui est avec nous ce matin. Colonel, mes hommages, bienvenue à Radio X.
Merci beaucoup, merci de me voir dans votre émission.
Colonel, évidemment, il y en a plusieurs, en fait, à l'antenne, il y a même quelqu'un qui a dit ici dans le retour que oui, c'est Netanyahou qui a demandé, qui a ordonné aux Américains de participer à cette opération-là, et c'est Israël qui opère. Vous, vous arrivez avec une opinion différente. Il y a 10 heures, vous avez écrit sur X qu'au fond, ce n'est pas Israël qui a déclenché la guerre, mais c'est l'Iran qui l'a déclenché et Israël a répliqué. L'opération Rugissement du Lion s'inscrit dans un conflit qui est en cours. Expliquez-nous votre position ce matin, d'entrée de jeu.
Ben voilà, c'était clairement écrit, je voudrais expliquer. L'Iran, depuis des dizaines d'années, s'est préparé à faire la guerre, faisait la guerre, a déclaré presque tous les jours mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à l'Occident. Et aujourd'hui, nous voyons une Iran qui bombarde tous les pays du Moyen-Orient, des pays arabes sunnites, des pays qui autrefois, on aurait pu penser qu'ils étaient pas tellement avec Israël ni avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, on voit que ce pays-là, en fait, montre son véritable visage. Et une dictature islamique de la pire espèce qui, en plus, veut la bombe atomique, est pour nous et pour la région une menace existentielle. C'est pour cela que nous avons pris le taureau par les cornes, et que si en juin 2025 on avait effectivement frappé pour empêcher in extremis que l'Iran des Mollahs obtienne la bombe atomique, aujourd'hui nous devons continuer et finir le travail avec nos alliés américains, évidemment, qui sont tout à fait indépendants et suffisamment souverains, comme vous pouvez le penser, pour prendre leurs propres décisions. Ceux qui disent qu'ils disent disent n'importe quoi, en fait, tout simplement.
Pouvez-vous nous expliquer en termes militaires, parce que vous êtes le porte-parole de Tsahal, donc la force défensive israélienne, comment fonctionne le dôme de protection au-dessus d'Israël? Parce que là, on a entendu, évidemment, qu'il y avait des missiles qui avaient atteint Tel Aviv, entre autres, même Jérusalem. Il y a les drones par la suite. Et il y a également des missiles qui se séparent en 10. Ça, c'est M. Jérusalemi qui nous a expliqué ça. Donc, il y a différents types d'armes. On est en train carrément de vider le coffre en Iran. On lance à peu près n'importe quoi. Comment s'opère la protection du territoire israélien au plan militaire et au plan technologique? Comment ça marche?
Le territoire israélien tout entier est recouvert d'abord d'une protection radar, d'identification des missiles ou des drones ou tout ce qui peut être menace. Tous ces radars de types différents sont reliés à des systèmes de protection de courte portée, de moyenne portée, de longue portée. C'est-à-dire qu'il y a différents types de réponses technologiques par rapport à la menace. Et cette réponse technologique, made in Israel, faite en Israël, réfléchie en Israël, apporte aujourd'hui une couverture unique au monde pour la protection des populations sur le territoire israélien, qu'elles soient juives, arabes, chrétiennes. Nous avons ici un pays avec 10 millions d'habitants de confessions différentes, de langues différentes, et cette protection, elle est unique pour tout l'État d'Israël. Maintenant, après l'identification de la menace par le radar ou par les systèmes de radar, l'arme est choisie, le type d'arme est choisi pour effectuer une interception. Et l'interception, elle se fait soit à courte portée sur quelques centaines, parfois quelques kilomètres pour les dômes de fer classiques lorsque les missiles partaient de la bande de Gaza ou du sud Liban. Et puis si on parle de missiles plus importants, là on a ce qu'on appelle David Slingberg, la fronde de David, ou alors les missiles antimissiles de type Arrow Flèche 1, 2 et 3. Cette panoplie, ça couple aujourd'hui avec un autre système en parallèle, pas à la place, qui est aussi unique au monde au niveau opérationnel, qui s'appelle Iron Beam, qui est une protection laser qui lui fonctionne également sur le système de identification radar, et les tirs ont lieu dans différents endroits. Ça peut être sur terre, également sur mer. Et l'interception est aujourd'hui une arme de défense qui coûte très cher, mais qui est fondamentale pour assurer la sécurité d'un État et de sa population en cas de guerre comme celle qu'aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de pays, malheureusement, n'ont pas ces systèmes de défense, malgré le fait que ce système existe aujourd'hui. En fait.
J'ai lu justement, pour la première fois aujourd'hui, l'utilisation de cette arme au laser. Pete Hegseth également, dans son dernier point de presse, a parlé, c'est la première fois que j'entendais un ministre parler de ça dans un conflit, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Êtes-vous en mesure de nous parler de ça, à savoir si ça intègre des éléments d'intelligence artificielle à l'attaque, à l'offensive et à la défensive également, là?
Je comprends. Non, on va pas rentrer dans les détails techniques. On est en guerre aujourd'hui. L'ennemi a des grandes oreilles, comme vous le savez. Il n'y a pas que des gens.
Mais dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails d'opération, là.
Même dans les petites lignes. Je vous écoute.
OK. Non, vous voulez pas aller là. Mais le ministre, c'est lui-même qui en a parlé, là.
Très bien.
OK, mais libre à lui, c'est ce que vous dites, pas de problème. Voilà, le Sud-Liban, parlez-moi du Sud-Liban. En quoi le Hezbollah serait-il moins menaçant aujourd'hui? On comprend que le Hezbollah a été attaqué de manière... Selon notre perception, suite évidemment aux attaques, à la réplique des pagettes, l'opération des pagettes, on voit que... Mais si vous permettez, je vais juste compléter ma phrase. Le Parlement libanais, pour la première fois, a semblé prendre ses distances avec le Hezbollah en disant qu'il était contre le fait d'engager contre Israël. Moi, c'est la première fois que je vois ça, un Parlement qui se lève et qui dit non, on n'est pas d'accord, on n'appuie pas l'opération du Hezbollah. Il semble y avoir quand même un conflit politique ou des frictions à l'intérieur du Liban. Le Hezbollah ne contrôle plus le Liban comme il le contrôlait avant, c'est notre perception à tout le moins. Mais parlez-nous de la réalité, de ce que vous percevez de votre côté.
La réalité est que le Hezbollah, depuis des années, est l'arme, le bras armé de l'Iran en territoire libanais, que là, encore une fois, il a choisi Téhéran plutôt que Beyrouth. Il a commis certainement la plus grave erreur de son existence en tant qu'organisation terroriste de la pire espèce. Et nous répondons à ces attaques qui ont commencé il y a 3 jours, parce qu'ils ont bombardé la ville de Haïfa, qui est la plus grande ville d'Israël au nord. Et il est hors de question pour nous, Israéliens, vous pouvez me citer et vous pouvez me reprendre mes paroles, il est hors de question pour Israël et pour Tzahal de laisser le Hezbollah toujours être une menace pour Israël et pour le Liban et pour la région. Nous allons aller dans cette situation jusqu'au bout. Le Hezbollah doit être démantelé, doit être anéanti. Anéanti, je dis bien, parce qu'il a entraîné le Liban dans des catastrophes. Il menace nos populations depuis des années et des années. Il n'y a aucune raison, sur le papier, qu'il y ait un conflit entre le Liban et Israël. Aucune raison. Sauf le fait que l'Iran utilise leur Hezbollah, il a fait pousser et grandir, et l'a arrosé avec des milliards de dollars tous les ans, devienne un monstre d'armée terroriste. Mais dans ce cadre-là, nous, aujourd'hui, on dit stop. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous bombardons précisément les objectifs du Hezbollah qui s'est implanté au sud du Liban depuis des années, mais également à Beyrouth Sud, dans le quartier de Zarqa. Nous prévenons à l'avance les populations avant que nous frappions. Mais ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est que il faut peut-être faire enfin un grand nettoyage de ces groupes menaçants et de ces régimes menaçants qui utilisent la force, qui utilisent la mafia, la drogue, comme pour ce qui est du Hezbollah, le trafic et d'autres éléments terrifiants pour rester au pouvoir. Et donc, Tal aujourd'hui mène une guerre sur deux fronts, le front iranien et le front sud-libanais, mais en aucun cas nous ne sommes en guerre avec les Libanais, comme d'ailleurs nous ne sommes en aucun cas en guerre avec les Iraniens. Nous sommes en guerre avec le régime de mort qui veut la mort d'Israël, la fin d'Israël, et nous sommes en guerre avec ce Hezbollah qui, même s'il a été touché par nous, l'an passé, se reconstruit et sa raison d'être étant la fin d'Israël. C'est grâce à ça qu'il vit, qu'il gagne de l'argent. Et juste une petite anecdote, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un grand problème après la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême, c'est qui va hériter des milliards et des milliards de dollars. On parle peut-être de 200 milliards de dollars qu'il aurait accumulés. Évidemment, vous savez que c'est un travail très lucratif d'être guide suprême. Et aujourd'hui, en Iran, ils ne savent pas à qui va aller l'argent. Donc, on parle d'abord en fait d'une mafia gigantesque sur le dos des peuples au nom d'idéologie islamiste. C'est terrifiant. Et là, Israël, dans ce cadre-là, agit pour sa défense, sa protection. Et il s'avère que c'est également la protection de la région et des Libanais et des Iraniens aussi.
Parlez-nous de l'état des choses ce matin en Iran. Et est-ce qu'il y a un danger qu'on puisse sous-estimer l'arsenal iranien? L'état des choses ce matin, quel est-il à vos yeux selon Tzahal?
Non, non, on n'a absolument pas sous-estimé l'arsenal. On sait à qui on a affaire depuis. On peut se rendre compte extrêmement étroitement les développements en Iran, que ce soit au niveau militaire, au niveau du régime, au niveau des gardiens de la révolution. Donc, ce qui se passe actuellement, on n'a aucun cas une surprise. Nous avons un renseignement extrêmement précis sur tout ce qui se passe là-bas. Et tout ce qui se passe là-bas était prévu.
La ligne semble problématique, là. On l'a perdu. Colonel?
Allô?
Oui, allez-y. En terminant, allez-y, la ligne vient de se rétablir.
Ah voilà. Non, j'ai dit que nous ne sommes pas du tout surpris par les réactions militaires de l'Iran. Nous savons très bien à qui on a affaire. On a un régime qui, depuis des années, se prépare à la guerre. Et nous voyons aujourd'hui les résultats.
Au niveau du contrôle, est-ce qu'on contrôle le ciel? Est-ce qu'on contrôle le sol? Et est-ce que vous excluez une intervention terrestre?
Vous savez, l'Iran se trouve à 2000 km des frontières d'Israël. 2000 km.
Oui, je sais, mais la France est déjà intervenue au plan terrestre en Afrique. Là. C'est pas impossible que vous puissiez intervenir au plan terrestre, non?
Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous utilisons l'arme aérienne. Pour traiter le problème iranien.
OK, mais on va suivre ça de près, assurément, parce que ça nous touche tous de près ou de loin, même si on est loin ici au Canada du théâtre de guerre. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch. Merci beaucoup, colonel.
Merci beaucoup. Je voudrais aussi vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la situation. Et je suis convaincu qu'il y a au Canada, qu'il y a au Québec... très grande population qui soutient Israël, qui comprend ce qui se passe, qui comprend même la guerre.
Et parfois, merci
la
beaucoup.
Guerre est obligatoire.
Merci, au revoir. Olivier Rafovitch, colonel, et vous aurez compris, c'est la position de Tzahal. Oui, on l'a dit, mais on le
ben oui, c'est ça.
Mais sur l'intelligence artificielle, ça, c'est intéressant à lire. Si vous pouvez fouiller là-dessus, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'il a trop ouvert avec cette... Moi, je pense qu'il a été briefé, là. S'il a ouvert à cet effet-là, c'est qu'il y avait affaire à ouvrir. Mais c'est vraiment intéressant, là. Le genre de guerre qui est menée...
Moi, je pense qu'il a trop ouvert. Hein?
Ouais. Ben... Il a carrément parlé de Claude. C'est le programme d'intelligence artificielle qui a été mis à contribution pour synchroniser toutes les attaques. Tu sais, quand tu vises 1000 sites et tu calcules les distances... Ça te prend telle arme pour anéantir telle cible à telle distance. C'est sûr que l'intelligence artificielle a été mise à contribution pour avoir un tel résultat en 72 heures, là, c'est sûr.
Mais ça, c'est clair, ça, ce que tu dis. Puis, tu sais, il n'y a personne qui veut. Mais que Exet ait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, c'est pas mal plus crédible que l'inverse, là.
Je sais pas, il y a beaucoup de monde, y a beaucoup d'adultes autour de la table. Dan, c'est pas un fly by night. Il y a beaucoup de.
Je sais,
y a du monde dégradé. Il y a Donald aussi qui s'en mêle au travers.
Sauf que, tu sais, je te rappelle, actuellement, je suis en train, depuis un bon mois, là, c'est quand même une lecture difficile, je suis en train de lire les mémoires de guerre de Eisenhower. Oui. Je peux te dire que la culture du secret militaire aux États-Unis, ça existe pour vrai. Là.
Oui.
C'est rare que tu vois un ministre du gouvernement américain sortir puis donner autant de détails sur la technologie de l'armée. Là. C'est pour ça que je pense que... Tu sais, lui, quand t'as vu sa réaction quand tu lui as posé la question. Là,
oh oui, il a fermé sa boîte.
Je toucherai pas à
il
ça.
Il va pas l'air très content de... D'ailleurs, de... la sortie d'Accept.
Ben, c'est ça que je te dis. C'est suite à son commentaire à lui que je me dis peut-être que Pete Accept, ce serait pas la première fois. Là. T'sais, on regarde le CV, le gars l'a déjà échappé 2-3 fois avec le manche-patate. Fait que ça se pourrait là, qu'il est sorti.
C'est un gars de média, Accept. Oui, il y a un passé militaire. Il y a personne qui va y enlever ça. Là, mais c'est un gars qui aime parler. Et peut-être que dans ce cas-là, il a trop parlé sur Anthropique, entre autres, puis Claude. C'est documenté là, ce matin. Vous pouvez lire, entre autres. Moi je lis beaucoup le Wall Street Journal. Il y a beaucoup beaucoup de sources également sur X qui parlent de ça, de l'intervention, de l'usage de l'intelligence artificielle dans le conflit actuel. Mais ouais, peut-être qu'il a trop parlé.
Moi, ce que j'aimerais, c'est être capable... Tu sais, c'est tough, parce que c'est la même chose en Russie-Ukraine. Là. Tu regardes tu lis les médias, puis tu dis, ouais... c'est clair qu'il y a une des deux nouvelles qui n'est pas vraie, là.
Ben, c'est sûr.
Ça, c'est hallucinant.
Non, c'est sa position à lui. Comme Jérusalem à qui on a parlé, il nous a dit ce qu'il voulait dire. Lui, il nous dit ce qu'il nous dit. Il dit pas ce qu'il voudrait dire. Il dit pas ce qu'on veut entendre non plus. Moi, j'ai demandé un diagnostic de la situation actuelle. Il n'a pas répondu. Tu sais, quand il a dit, quand j'ai posé la question intervention sur le sol, il s'est mis quasiment à rire de moi. Non, c'est parce que la France est déjà intervenue en Afrique. Tu sais, c'est pas parce que c'est pas un pays limitrophe que tu peux pas intervenir, là. Physiquement, tu comprends, boots on the ground. Mais c'est sûr qu'Israël, en Iran, il n'y a pas personne qui dit ce matin que ça va arriver. C'est juste que c'est une question qui se pose. Si on dit boots on the ground, c'est une opération qui est conjointe.
Ouais, puis...
Donc, peut-être qu'Israël va être appelé à... Mais tu as senti qu'il voulait en dire le moins possible.
Ouais, moi, j'ai senti que c'est fidèle à la tradition de l'armée.
Mais on est en pleine guerre aussi.
Oui, c'est ça. J'ai senti qu'il voulait en dire le moins possible. Puis, effectivement, dans sa façon de répondre sur le fait qu'ils sont à 2000 km de l'Iran, selon moi, c'est parce que c'est envisagé. Là. Quand tu fais une réponse passive-agressive de même, c'est parce que tu veux tenir le monde le plus loin possible de la réalité. Puis tu sais, on a parlé avec des spécialistes de guerre, puis il y en a plein partout qui disent c'est impossible changer le régime en Iran s'il n'y a pas des bottes sur le terrain. Ça n'arrivera pas, là. C'est un grand pays, l'Iran, là. C'est plus grand qu'on pense, malgré le fait qu'il n'est pas...
C'est deux ou trois fois la France.
Ah oui, c'est un grand pays, l'Iran.
90 millions de personnes.
Pour prendre le contrôle, il va falloir que quelqu'un y aille.
Et là, c'est les Kurdes qui sont armés. Ils sont 4 millions sur 4 pays. Eux veulent un État.
Oui.
C'est ça qu'il faut regarder aussi, puis on ira à la pause là-dessus. Sans tomber dans la grosse géopolitique, il en demande pas moins que eux sont très nationalistes, mais sont en Syrie et en Turquie. La Syrie et la Turquie ne veulent pas de Kurdistan. Là. Mais eux autres, ils en veulent un. Et c'est un Kurdistan qui recoupe la Syrie et la Turquie. Donc, c'est une giblotte, là. La Turquie, menée par un islamiste à cravate, mais membre de l'OTAN, la Syrie menée par un islamiste à cravate, qui a donné la main à Donald, mais qui est à watcher quand même, parce que ça a été quand même l'homme le plus recherché dans le monde. Un islamiste, là, qui a déjà égorgé du monde, là, qui a déjà ordonné des meurtres. Et vous avez l'Iran qui va devenir peut-être un no man's land et à laquelle on va assister à une guerre ethnique. Et les Kurdes sont armés puis arrivent du Nord. Non, c'est pour ça que... Puis Carney dit... Puis c'est la une du Globe and Mail de ce matin.
C'est la une de tous les médias d'information aussi.
Que,
c'est gros que
Carney n'exclut pas. Ouais, il n'exclut pas une intervention. Mais tu sais, lui, sa job, il peut pas se fermer les portes. T'sais, supposons qu'il dit, Dan, il est exclu complètement que le Canada... tu sais, il se ferme des portes. Ouais, il garde des portes ouvertes.
Ça se pourrait qu'il y ait de l'air imbécile à un moment donné s'il dit ça. Puis en même temps...
C'est ça. Mais il est intelligent, Carney, à cet effet-là. Tu me suis?
Ben oui.
Il garde des portes ouvertes. Le Canada a déjà joué beaucoup de rôles internationaux, pas dans le nation building comme en Afghanistan, mais dans des rôles un peu de peacekeeping ou de stabilité. J'ai l'impression que Carney est en train de revenir, ou aimerait revenir, ou aimerait opérer un retour en arrière. Canada, style années 90, casque bleu, entre guillemets.
Pis...
Donc, genre de ami des États-Unis, mais pas tant. Un ami sceptique des États-Unis. Tu me suis?
Oui. Puis je sais qu'on va parler de Pierre Tremblay tantôt avec Guy. Là, tu vas me dire qui est Pierre Tremblay. Moi, je pense qu'en Espagne, Pedro Sanchez...
Ah oui, c'est Pierre Tremblay.
C'est Pierre Tremblay.
C'est un nom commun. Ah, Pedro Sanchez, tu prends l'annuaire de Madrid un matin, ça se peut qu'il y en ait un. Hein?
Absolument.
Tu y vas au pif.
Ah,
là,
regarde, selon moi, il y en a même un à Montréal. Il doit en avoir une coupe à Toronto. Puis facile, un bon millier à Chicoutimi.
Pierre Tremblay, effectivement.
Donc, Pedro Sanchez, il s'est fait menacer hier par Donald Trump. Non, pas de tarifs, mais on va arrêter tout commerce.
Exactement.
Avec l'Espagne. C'est une bizarre de position qu'a pris Pierre Tremblay.
Oh oui. Les oranges de Valence, là, au public, c'est inoropile.
C'est ça. Ça va être tough.
Fait que faites vos réserves.
Tant qu'à être là-dedans, je veux te faire entendre un Québécois qui alimente ses médias sociaux. Lui, il était à Doha.
Shoot.
Puis, écoute, il a pris un taxi.
C'est le gars, le douche qui joue au golf, là? Qui était impliqué dans.
Ben, il est là avec sa femme. Non, c'est pas lui.
Ah, c'est pas lui, OK.
Non, c'est un gars qui il a pris un taxi, 2 000 $ de taxi pour aller à Riyad.
Oui.
Vlog numéro 2. Vlog numéro 2, on est dans un taxi direction Riyad. On a décidé de prendre cette solution-là par nous-mêmes, moi et ma conjointe. On a un excellent chauffeur avec nous qui a fait la route, qui la connaît. Fait qu'on a payé pour, puis on s'enligne là-dessus. On est sur le bon départ. Premier arrêt, ça va être les douanes du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Je vous update sous peu.
Beaucoup de Québécois et de Canadiens...
J'aurais fait ça, moi. J'aurais fait ça.
T'aurais pris le taxi? Je sais pas. Je me suis posé la question, moi, étant donné la job que je fais, si j'avais été en vacances là-bas, possiblement que je serais resté pour essayer d'alimenter le plus possible le média dans lequel je travaille.
Oui, mais être un touriste,
c'est sûr que j'aurais essayé. En fait, je serais pas allé. Mais ça, c'est un autre débat, là. Il reste que le site Internet de Tourisme Canada, ben pas Tourisme Canada, mais d'affaires, bon, peu importe, là. Le gouvernement canadien, depuis le 7 octobre 2023, l'a dit que cette région-là est une région qui est incertaine, quand même. Là, ils sont 85 000 Canadiens à être pognés là-bas, puis à pleurer parce que le gouvernement canadien les rapatrie pas. Mais je comprends pas. À 85 000 personnes, vous vous attendez à quoi dans une région qui est en guerre? Comment est-ce que vous voulez que le Canada aille vous chercher, bon Dieu? Le Canada, c'est un pays qui a de la misère à gérer. Le système de paye de ses propres employés.
Le Canada, c'est un pays incapable de donner de l'eau potable à toutes les réserves autochtones.
Baissez vos attentes. Si vous voulez partir de là, vous êtes dans la région d'Oman, du Qatar, de l'Arabie Saoudite.
C'est un pays dysfonctionnel. Tu as de la misère à parler à quelqu'un à l'impôt. Tu veux payer tes impôts, mais tu ne peux pas parler à quelqu'un de l'impôt. C'est ça le Canada, là.
Je trouve que les gens ont des attentes très, très élevées envers le Canada. Moi, si j'étais vous autres, je ramasserais des éclats d'obus puis je me ferais un radeau, là. Il y a plus de chances que vous réussissiez à partir de là que d'attendre que le gouvernement canadien vienne vous chercher.
Mais le update page 5 Globe ce matin, c'est plus de 2000 Canadiens qui vont partir. Ottawa, là, je traduis sa gueule, est en train d'organiser des charters, donc des avions, des vols nolisés. Et des places dans des sièges, dans des avions de compagnie. Bon, Air Canada, j'imagine, pour aider 2000 Canadiens.
Ils sont 85 000.
Au Moyen-Orient. Moi, ce que je ferais, ça, c'est dans Domland. Ça n'existe pas, là. Mais moi, je suis tanné de ça, la double citoyenneté. On en a parlé brièvement au début de la semaine.
Parce que dans 85 000, d'après moi,
Avant d'embarquer.
Des touristes.
Moi, je mets mon saut. Je suis à la porte de l'avion. Tu veux embarquer, tu pleures. Moi, je te demande, t'es-tu Canadien ou tu l'es pas? Tu me réponds quoi? Tu me réponds, je suis Canadien. Je déchire ton passeport Qatari. Je déchire devant toi ton passeport de l'Arabie Saoudite. C'est fini, les deux citoyennetés. Tu choisis quel pays. Il y a un siège 14, le siège 14C t'attend dans l'avion. Ça te tente-tu de revenir? Je m'ennuie de ma tante. OK, parfait. Tu choisis là ta citoyenneté right on the spot. T'es-tu Canadien ou tu ne l'es pas? OK, tu vas signer passeport 3 copies. J'abandonne ma citoyenneté Qatari ou Oman ou whatever. Tu joues pas sur les deux tableaux. Moi, je m'en vais là-bas, je suis bien.
C'est ça.
Je pleure parce que j'ai le feu au cul. puis j'ai peur de... Je m'ennuie de ma matante.
Là, dans le
non,
cas...
Non, tu choisis là, là.
Dans le cas présent, c'est sûr qu'il y a des touristes, parce que tu sais, on l'a vu, là, Camille était à Dubaï il y a ça, il y a 2 semaines. Là. Mais, tu sais, donc, il y a des endroits qui sont touristiques dans les places qui sont touchées présentement. Mais je voyais... J'ai vu le chiffre, je me souviens plus exactement, là, mais la dernière fois que c'est arrivé, c'était au Liban. Là, t'avais plein qui levaient la main, là. « Hey, on est Canadiens, ramenez-nous, là! » Mais je pense que c'est autour de 90 % de cette gang-là qui sont retournés 6 mois, 1 an après. Là. C'est dans le sens que je veux dire, c'est pas les Canadiens qui vivent ici. Zéro. Là.
Mais moi, en tant que Canadien, là, arrivez-moi pas avec d'autres. Il y a des livers qui arrivent. « Ouais, mais dans tel pays, on est double citoyen. » Je m'en balance des autres pays. Moi, je suis Canadien. Là. Moi, au Canada, je suis tanné de payer parce que c'est des vols payés avec les taxes du monde, là. Donc, c'était bien le fun pour eux autres, la double citoyenneté, jouer sur les deux tableaux, comme beaucoup de Libanais font, ou beaucoup de... Tu sais, on connaît, là, on l'a sait, la situation, là, c'est rien de nouveau là-dedans. Là. Ouais. Mais ça, je suis tanné de ça. Le feu est pogné là-bas, pogné pour aller chercher du monde là-bas, payer avec nos taxes, mais quand tout va bien, tu joues sur deux tableaux. C'est fini, les deux tableaux. Donc, être Madame Annan... Anan, j'aurais moins de nanan. Madame Anan devrait avoir moins de nanan. Et elle devrait se positionner à l'entrée de l'avion. Are you a Canadian or not? That's it. Tu joues pas sur les deux tableaux. Ça finit là. C'est tout. Ben, c'est ma position à moi. Là.
Ah oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis pas juste avec tout le monde, là, les Français, les Britanniques, tous ceux qui ont. Je fais un choix, bâtard.
Oui, en tant que Canadien. Si les Français veulent avoir la double citoyenneté, eux autres. Congolais, français, c'est leur affaire.
Ouais, c'est
autres, au Canada, ouais. C'est terminé la double citoyenneté. C'est tout. C'est ma position, regarde. Et je la partage.